7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les initiatives citoyennes pour créer la ville africaine de demain. En 20 ans, la population urbaine a été multipliée par deux sur le continent. Plus de 400 millions d'Africains vivent aujourd'hui en ville et ils seront 1 milliard 200 millions en 2050 selon ONU Habitat. Cette forte croissance pose des problèmes de logement et d'aménagement des villes. 60% des citadins vivent dans un habitat précaire. Anarchie, manque d'infrastructures, insécurité, pollution, ce sont les mots qui reviennent quand on évoque la ville africaine. Pourtant, partout en Afrique, des citoyens montent des projets pour améliorer leurs conditions de vie dans les quartiers. Assainissement, construction, réhabilitation, les villes se transforment. Alors à quoi ressemblera la ville africaine de demain? Sera-t-elle plus écologique? Fera-t-il bon y vivre? Quel rôle pour la société civile dans la réinvention ou la réappropriation des villes? On va en parler avec nos deux invités. Jérôme Chenal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, architecte, directeur de la communauté d'études pour l'aménagement du territoire à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et spécialiste des villes africaines. Sename Kofi Agbodjinou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et anthropologue togolais, créateur du WELAB et de la plateforme L'Africaine d'Architecture qui permet de penser la Smart City en Afrique. Nous verrons également tout à l'heure à travers des témoignages très concrets que les choses bougent dans les bidonvilles du Kenya, du Nigeria, du Ghana et dans les quartiers non lotis de Ouagadougou au Burkina Faso. Des témoignages recueillis par Charlie Dupiot au 8e sommet Africité, le salon international des villes et des collectivités territoriales d'Afrique qui s'est tenu du 20 au 23 novembre à Marrakech. N'attendez pas la fin de l'émission pour intervenir et questionner nos invités au 33 1 84 22 71 71, un numéro qui fonctionne aussi sur WhatsApp, mais ne laissez plus de messages audio. Nous sommes en direct jusqu'à 11h, temps universel.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins, hein ?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. On va prendre un exemple de ville confrontée au problème de l'habitat. Lagos, la capitale économique du Nigeria, est passée de 200 000 à 20 millions d'habitants en 57 ans. Lagos, qui génère 35% du PIB nigérian, croît de jour en jour et avec elle ses bidonvilles. L'agence de renouvellement urbain de Lagos, financée par le gouvernement central, entend construire dans plusieurs bidonvilles de Lagos des logements décent et accessible. Dans des quartiers où des groupes d'épargne ont été mis en place pour aider les habitants à lancer leur micro-entreprise, Charlie Dupiot a rencontré Latif Cholebo qui dirige l'agence au sommet Africité fin novembre.
Originally back in 2002, there were about 42 slums that were...
En 2002, Lagos comptait 42 bidonvilles identifiés. Aujourd'hui, il y en a plus de 100 recensés et il continue à grandir.
You can say almost 70% of the people in Lagos probably live in slums.
On peut dire qu'au moins 70% des habitants de Lagos vivent dans un bidonville. Là où vous en verrez le plus, c'est près de la lagune, au bord de la rivière. On en voit aussi dans le centre de Lagos, même à l'intérieur de quartiers plutôt classe moyenne. On sait que des épidémies peuvent rapidement se répandre, du fait même de la façon dont les habitations sont agencées les unes sur les autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre agence de développement urbain a été créée et renforcée, afin de s'atteler à ce problème. L'un des programmes que nous avons lancé en 2013 est financé grâce à un prêt de l'Agence française de développement, l'AFD. Un prêt à bas intérêt de 100 millions de dollars pour deux bidonvilles de Lagos. Nous voulons y construire un certain nombre d'infrastructures qui manquent. Nous lançons ce programme dans deux quartiers précaires de l'est de la ville, Bariga et Ifelodin.
Quand est-ce que vous avez commencé les programmes dans ces deux bidonvilles ?
Les programmes ont commencé en 2013.
Ils ont débuté en 2013. Nous sommes en train de construire des réseaux de 15 routes dans les deux communautés. Il y aura aussi une nouvelle école et un nouveau centre de santé dans chaque quartier. Tout cela doit être achevé d'ici 2 ans.
Mais ça ne change pas le problème des habitats qui restent précaires.
Oh, of course, it changes housing.
Si, bien sûr, ça participe aussi à résoudre cette question. Si le gouvernement investit dans des infrastructures, des promoteurs immobiliers vont venir pour construire des logements décents. Et nous leur donnerons l'opportunité d'augmenter la densité des locataires qui vivaient là jusqu'ici et qui paieront un loyer accessible. En fait, le promoteur apporte son argent et c'est nous, représentants du gouvernement, qui allons négocier pour acheter une partie des terres à leurs propriétaires.
Des familles locales.
Celles qui possèdent la terre. Nous voulons aussi, cela fait partie de notre stratégie, que les promoteurs construisent de manière verticale, plutôt que de continuer l'étalement horizontal. Par exemple, nous venons de construire, dans un autre bidonville de Lagos, un bâtiment de 13 étages.
Ce sera des tours.
Oui, comme des tours. Et nous verrons à mettre en place un outil de contrôle des loyers. Il s'agit d'un partenariat public-privé. Ce qui fait un bidonville, c'est l'absence de toute infrastructure de base. Mais maintenant, le gouvernement en construit avec un emprunt de l'AFD. Et une fois que ces infrastructures seront là, les gens auront envie d'investir dans le quartier. Si vous regardez les États-Unis, vous verrez que cette stratégie a déjà été mise en œuvre. J'ai longtemps travaillé aux États-Unis, pour la ville de Los Angeles. Je connais bien ces concepts. C'est pour ça que j'essaye de les introduire aujourd'hui à Lagos.
Depuis 2013, vous menez un programme pilote dans deux bidonvilles. Aujourd'hui, Lagos en compte 100. Ça paraît très très difficile d'arriver à résoudre le problème au niveau de toute la ville.
Oui, mais que pouvons-nous faire ? Nous pouvons seulement agir à hauteur de ce que nous pouvons financer. Le budget de notre agence pour cette année 2018, c'était 2 800 000 euros. Ça ne suffit pas. Le problème devrait être aussi géré par le gouvernement fédéral, car il s'agit également de contrôler toute l'immigration jusqu'à Lagos. Ce n'est pas seulement le problème de Lagos, c'est le problème du pays en entier.
Jérôme Chenal, on a l'impression en écoutant Latif Cholebo que les promoteurs ont des réticences à construire de manière verticale. Est-ce que ce n'est pas une manière pourtant de résoudre le problème des bidonvilles ?
Ce serait une manière effectivement de faire de la densité. Donc on n'a pas encore prouvé que la verticalité amenait beaucoup plus de densité que l'horizontalité. On a des bidonvilles qui sont très 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 denses, alors qu'on a des grands ensembles urbains avec des grandes tours qui sont très peu denses. Donc la verticalité en elle-même ne suffit évidemment pas. Mais c'est une réponse à laquelle on oppose toujours la tradition où les gens n'ont pas l'habitude de vivre dans des tours et qui veulent absolument avoir un petit lopin de terre. On voit dans le centre de Dakar, par exemple, pour prendre cette ville, que c'est possible et de plus en plus de gens habitent dans la verticalité. Donc, est-ce que c'est une réponse ? Sans doute, c'est une réponse qui sera partielle parce qu'on l'a vu, il y a deux bidonvilles pilotes pour plus de 100 bidonvilles. Donc, à un moment donné, ça va nous encourager à essayer de réfléchir différemment parce qu'on on vient de faire la démonstration dans le petit reportage que si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais. Donc on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes. Donc c'est qu'à un moment donné, il faudra voir comment est-ce qu'on reprend les problèmes à la base et qui va résoudre. Et c'est peut-être que là que les communautés ont un rôle tout à fait particulier à jouer.
Sename Kofi Agbodjinou, l'horizontalité des villes africaines, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la tradition ou est-ce que ça commence à changer, comme le disait Jérôme à l'instant ?
Je ne pense pas qu'il y ait une tradition de l'horizontalité. Les villes africaines ne sont pas programmées. Il n'y a pas un choix ni de verticalité ni d'horizontalité. Les villes se développent à qui mieux, comme elles peuvent. Mais effectivement, on est aujourd'hui peut-être à un moment un peu charnière où on doit décider si on construit en hauteur ou si on continue à s'étaler parce que démographie, etc.
Mais quand Latif Cholebo parlait de concept importé de Los Angeles, enfin un concept qui voudrait implanter au Nigeria et qui viendrait de Los Angeles, j'imagine que vous n'êtes pas très enthousiaste.
Alors il faut toujours un équilibre. Il y a certainement des façons de faire, des cultures très fortes qui certainement valorisent le rapport au sol. Mais on a aussi des enjeux, qui sont les enjeux de l'échéance 2050, qui est cette frontière un peu qu'on nous force à penser, à laquelle la population qu'on a aujourd'hui va encore doubler. Et ces échéances-là et tous les enjeux qu'elles proposent nous obligent à faire un choix de l'équilibre entre ce qui est de la culture et ce qui sera le bien vivre demain. Et si cela passe par de la verticalité, ben, il faudra aller vers la verticalité, mais seulement il faut le décider. Il faut qu'il y ait des débats, il faut que le décideur, les spécialistes, mais aussi effectivement la société civile se saisissent de cette question et qu'on tranche.
Et ces débats, ils ont commencé en Afrique ?
J'ai l'impression que non, pas réellement. Beaucoup de personnes pensent le futur de l'Afrique à la place de l'Afrique parce qu'ils, à juste titre, ils sont inquiets, puisqu'évidemment, un humain sur quatre africains d'ici 2050, c'est un problème global, ce n'est plus seulement le problème de l'Afrique, mais les Africains eux-mêmes, j'ai l'impression, ne se sont pas encore saisis de cette question-là.
Jérôme, beaucoup de villes en Afrique se sont agrandies dans l'anarchie la plus totale, ce qui pose de multiples problèmes, transport, insalubrité, insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants, les élus, ont pris conscience de l'enjeu que représente la planification urbaine ?
Je pense qu'ils ont pris conscience, bien sûr. Moi, je suis pas sûr que ce soit le chaos qu'on décrit. Les gens sont intelligents un peu partout dans le monde, donc ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent pourquoi ils le font. C'est peut-être qu'il y a d'autres réalités, d'autres intérêts qui sont en jeu. On parlait de la verticalité, c'est clair que aujourd'hui, dans la plupart des villes, le sol coûtant extrêmement peu cher, c'est plus facile de construire une maison à un étage, c'est moins cher sur une nouvelle parcelle que de construire à étage, forcément. Donc il y a des réalités économiques, il y a des réalités liées au foncier, et ça c'est un point extrêmement important dans les villes africaines, et qui sont des réalités sociales et pas qu'économiques. Donc on connaît ces mécanismes-là, les dirigeants les connaissent. Mais il y a une petite, je dirais, il y a un biais cognitif entre le discours et la réalité. Et donc, à un moment donné, il faudra soit modifier le discours et assumer les pratiques, ou alors soit arrêter un certain nombre de pratiques. Mais on ne va pas pouvoir continuer avec ce biais.
Une bonne planification urbaine doit respecter quels impératifs ?
Alors moi, je dirais qu'il faut de la salubrité et de la sécurité. Voilà, c'est tout. Le reste, on n'a pas besoin. Donc, on peut avoir plein de formes différentes, hein, mais c'est vrai que on doit mettre les gens dans des conditions de sécurité qui sont des sécurités de l'habitat, mais aussi de sécurité physique. Quand on se promène, il faut qu'on puisse se promener dans toutes les villes à n'importe quelle heure sans aucun souci. Ça, c'est, je dirais, la base. Et puis ensuite, il faut que les gens ne risquent pas leur vie quand ils sont dans leur quartier, parce que la maison va s'écrouler, parce que le voisin a fait exploser sa bonbonne de gaz et tout va brûler. Donc ça, c'est des choses qui sont non négociables de mon point de vue. La question de la salubrité aussi, de vivre dans des conditions de salubrité, c'est non négociable. Tout le reste est négociable. Mais on devrait repartir de là et trouver des formes qui permettent ceci.
Alors, à l'horizon 2025, des centaines de millions de nouveaux urbains vont devoir se loger. Les villes sont appelées à doubler de surface. Et pour vous, ça, ce n'est pas la bonne solution. Il faut construire des villes nouvelles ?
Pas forcément. On a toujours l'impression... Pour moi, la ville nouvelle, je prends toujours cette image. Vous savez, des fois, quand vous travaillez sur votre bureau et tout s'amasse, et à un moment donné, vous n'avez plus la force de tout ranger... Alors vous allez sur la table à cuisine qui, elle, est propre et vous remettez votre petit dossier tout propre sur la table à cuisine. Voilà. Simplement parce que vous n'avez pas eu la force de ranger. Et ces villes nouvelles, c'est un peu cette impression-là. On se dit, on n'y arrive pas, on va faire mieux ailleurs. Mais forcément, on va réussir à faire mieux ailleurs. Et donc, en ce sens-là, c'est bien de faire des villes nouvelles. Par contre, ça ne changera rien au problème qu'on a aujourd'hui et qu'on va... de toute façon, pas résoudre. Donc, les villes nouvelles, oui, mais il ne faut pas oublier tout ce qui existe aujourd'hui et qu'on doit résoudre.
Sanamé Kofi, votre avis sur les villes nouvelles ?
L'approche par la production de nouvelles villes est intéressante, mais elle pose un certain nombre de problèmes. Effectivement, il manque à peu près les deux tiers des infrastructures nécessaires à en quelque sorte prendre en charge tous les urbains qui vont arriver. Donc il faut construire. Mais le problème que pose la ville nouvelle, c'est d'abord qu'on nous annonce qu'il y aura au moins 5 grandes conurbations d'ici 2050, donc des villes sur plusieurs kilomètres. Des villes-régions pratiquement, et ces villes nouvelles risquent d'être en quelque sorte rattrapées par les villes existantes. Et elles vont devenir des sortes de mini-villes fermées, de villes réservées, voire même de villes de riches. Et effectivement, si on ne fait que des villes nouvelles sans travailler l'existant, c'est en quelque sorte fuir le problème et prendre le risque que ce qui n'est pas rangé par ailleurs déborde et arrive jusque sur la table que vous avez bien pris le soin de ranger.
I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache. What is left? Forgetting how it started. This is how it ends. Oh no. I know I've done some wrong. I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true.
Jacob Banks, Unknown to You, dans 7 milliards de voisins. Nous sommes toujours en compagnie des architectes Jérôme Chenal et Senami Kofi Agbodjinou pour évoquer la ville africaine de demain. On parlait tout à l'heure du problème des bidonvilles à Lagos. Mataré, 500 000 habitants, est le troisième plus grand bidonville de Nairobi au Kenya. Nancy Njoki Wairimu y a grandi dans une famille monoparentale. Elle était la troisième de 7 enfants, toutes des filles. Aujourd'hui, Nancy est engagée au sein de la Fédération nationale des habitants des bidonvilles du Kenya avec l'ONG Slum Dwellers International. Elle collecte des données sur les bidonvilles de Nairobi afin de convaincre les élus locaux qu'il est urgent d'agir, le plus souvent bénévolement. Charlie Dupio l'a rencontrée à l'occasion du sommet Africité.
J'ai été élevée par ma mère. Elle vendait des vêtements et il lui arrivait de travailler aussi dans des fermes, pas loin, près de la rivière, et on y cultivait des légumes. Notre bidonville est situé au nord-est de Nairobi, tout près du centre-ville où la plupart des gens vont travailler à seulement 20 minutes à pied. Notre maison, c'était une cabane faite de tôle métallique et de bois. Le sol, eh bien, c'était de la boue. Nous vivions toutes dans une seule pièce, mes sœurs, ma mère et moi, toutes les huit. Certaines d'entre nous dormaient par terre. J'ai vécu toute ma vie dans ce bidonville depuis mon enfance. Je suis allée à l'école jusqu'à la fin du lycée. J'ai pu être parrainée par des organisations liées à l'église qui ont payé mes frais de scolarité au lycée. À Mataré, il n'y a qu'une seule école primaire publique. Le reste, ce sont des écoles privées et chères. En fait, quand on grandit dans un tel endroit, on se sent maudit, abandonné. Mais on apprend à vivre dans ces conditions. Quand on vit dans un bidonville, on apprend à s'adapter et à travailler dur pour en sortir. Après le lycée, j'ai travaillé pour l'église pendant 4 ans comme standardiste. Puis j'ai arrêté et j'ai commencé à m'engager au sein de mon bidonville.
Comment vous êtes lancée dans ce travail communautaire ?
J'avais 20 ans à ce moment-là. À l'époque, dans le bidonville, il y avait de nombreuses organisations comme Slum Dwellers International, Bermuda Trust, Mungano. Elles encourageaient les habitants à épargner. Notre idée principale, c'était de les inciter à former des groupes d'épargne, des groupes qui peuvent permettre à chacun d'emprunter de l'argent pour lancer sa micro-entreprise. Vous pouvez créer un groupe de 20-30 personnes. La plupart du temps, 70% des membres sont des femmes. Les hommes sont moins intéressés. Je ne saurais pas dire pourquoi. Moi-même, je faisais partie d'un groupe d'épargne, en plus de coordonner les activités de ce groupe. Et j'ai moi aussi pu créer mon propre petit commerce. Je vends du savon et de la lessive. Je les fabrique moi-même et je les vends. J'ai pu emprunter à mon groupe d'épargne une petite somme pour acheter les produits nécessaires. Si on veut fabriquer de la lessive, 10 dollars suffisent pour se lancer.
En fait, c'est le principe du microcrédit, mais à l'échelle communautaire.
Dans nos quartiers, nous parlons même de table banking, on peut dire banque sur la table. Parce que chacun amène sur la table 200 shillings kenyans, 2 euros. 200 shillings par-ci, 200 shillings par-là. On dépose l'argent sur la table pour qu'une personne du groupe emprunte la somme réunie et la rembourse au reste du groupe le mois suivant, par exemple, avec des intérêts à hauteur de 5%. Ce qui nous fait gagner de l'argent. Ces réunions sont hebdomadaires, mais les économies, il faut les faire chaque jour. Même s'il s'agit d'économiser seulement un shilling par jour, moins d'un centime d'euro par jour. La plupart des habitants sont au chômage ou ont des petites activités rémunératrices. Ces groupes d'épargne sont aussi un outil pour rassembler les communautés, pour leur permettre de dresser la liste des priorités, des besoins de leur quartier, pour ensuite aller défendre leurs droits.
Et concrètement, qu'est-ce qui a pu émerger de ces discussions-là ?
Par exemple, à Matare, il y a 6 ans, nous avions des groupes d'épargne dans chaque village du bidonville. On considère que Matare compte 13 villages. Les points d'accès à l'eau étaient tenus par des cartels, qui nous la vendaient à leur prix, un prix élevé. Nous nous sommes rassemblés pour aller rencontrer les fournisseurs d'eau de la ville de Nairobi. Ils ont accepté d'investir, de construire des kiosques à eau. La Banque mondiale a participé au financement de ces points d'eau. Et maintenant, tous nos groupes d'épargne à Matare ont leur propre kiosque à eau, avec de l'eau à bas prix, comparé à ce que nous devions payer auparavant. Aujourd'hui, nous payons 2 centimes d'euros pour un jerrycan de 20 litres d'eau. Avant, nous devions payer 20 centimes 10 fois plus. Nous étions 500 habitants à réclamer notre droit à l'eau. Je faisais partie de ces 500 et notre voix a été entendue, car nous étions nombreux. Nous avons pu franchir d'autres étapes dans le bidonville de Mukuru, toujours à Nairobi. Les autorités locales ont déclaré une zone spéciale pour la planification urbaine. En fait, les habitants de Mukuru avaient collecté des données sur leur bidonville pour les présenter aux autorités du district. Ils avaient recensé le nombre d'écoles, le ratio de toilettes par rapport au nombre de familles, le nombre de routes d'accès, la prévalence du choléra. En voyant toutes ces données écrites, les élus locaux ont compris que le problème était urgent. Nous voulons mener ce travail de collecte à Matare et dans d'autres bidonvilles de Nairobi. En tant que communauté, nous croyons qu'il faut d'abord commencer à changer notre situation, car si nous attendons le gouvernement sans rien faire, nous risquons d'attendre une éternité. Alors, nous faisons des propositions aux élus locaux. Par exemple, on va lancer une campagne de nettoyage des déchets du bidonville. Par contre, pour les projets majeurs de développement, comme les routes, les installations sanitaires, les écoles, les élus locaux doivent investir de l'argent. Et il faut les convaincre. Pour moi, dans un bidonville, tout est une bataille sans fin.
Et aujourd'hui, vous ne vivez plus dans le bidonville ?
J'y travaille toujours et j'y passe le plus clair de mon temps. Mais maintenant, je vis dans un quartier voisin, j'habite dans une maison plus grande que celle dans laquelle je vivais à Matare, mais elle est encore loin d'être parfaite. J'ai 3 enfants, j'aimerais pouvoir investir pour eux, alors je vais continuer à épargner au sein de la communauté et aider mes enfants à souscrire à un prêt immobilier pour qu'ils ne vivent pas la vie que j'ai vécue.
Jérôme Chenal, qu'est-ce qui vous frappe dans cette interview qu'on vient d'entendre ?
Disons que je vois qu'il y a des communautés qui sont prêtes à faire plein de choses et il y a vraiment une, je dirais, il y a une atmosphère positive et il y a une sorte de dynamisme et il faut essayer d'utiliser tout ce dynamisme de ces gens. Ça m'a fait penser à des choses que j'ai vues à Madagascar aussi où il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses et on avait un petit peu l'impression que c'était des très petites choses et que par rapport aux débats globaux et aux grandes décisions, c'était des tout petites choses et que, mais en fait c'est le contraire, c'est toutes ces petites choses justement qui vont faire la ville de demain sans doute et donc il y a là derrière une énergie et il faut pouvoir capter et il faut pouvoir augmenter encore cette énergie.
Sename Kofi Agbodjinou, vous vivez à Lomé, au Togo. Est-ce que vous constatez, vous aussi, un investissement croissant ou une envie de, croissante des habitants de s'investir dans la vie de la cité, de la changer, de la transformer?
Disons que l'investissement des masses est inversement proportionnel à celui du décideur. Plus il y a du vide, plus la créativité africaine et celle des petites gens trouvent à s'exprimer. Et donc, de fait, en Afrique, il faut comprendre qu'il y a deux urbanismes. Il y a l'urbanisme réglementaire, celui du décideur et de son armée de spécialistes, et l'urbanisme spontané de la moindre vendeuse qui s'installe dans la rue. Et ce vers quoi il faut tendre, c'est s'autoriser à imaginer que la ville puisse être produite officiellement de façon distribuée en mobilisant cette créativité qui est diffuse dans les masses, parce qu'aujourd'hui on a les moyens de cette révolution. En se saisissant des outils que nous propose aujourd'hui la révolution, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on pourrait imaginer qu'on source toutes ces façons de faire qu'on range dans l'informel et qu'on oppose à la modernité, qu'on les professionnalise et qu'elles contribuent de façon sublime à la production de la ville.
C'est pour ça que vous avez créé le WELAB ?
Oui, c'est une des vocations de WELAB.
Alors expliquez ce que c'est le WELAB.
Alors le WELAB participe d'un projet urbain qui est une alternative à la Smart City dont on élabore une critique depuis 6 ans maintenant, enfin la Smart City vue d'Afrique. Et cette alternative propose par le déploiement dans la ville d'un réseau de lieux qui sont censés capter la créativité des alentours, la sublimer et lancer des projets développés en communauté qui ont la capacité d'impacter positivement le cadre de vie parce qu'elles mobilisent des technologies démocratisées, mais des technologies tout à fait contemporaines et qui peuvent être efficientes.
Donc ce sont des ateliers libres d'accès? Comment ça fonctionne?
Alors c'est donc un réseau d'ateliers entièrement ouvert, dont chacun essaie d'impacter le rayon d'un ou de 2 kilomètres autour en lançant des projets dans la gestion des déchets, dans la disponibilité de la ressource alimentaire, de la ressource énergétique, etc., dans la mobilité, dans la gouvernance. Et l'addition de ces petits projets qui utilisent toutes des technologies démocratisées, nous permet de tendre vers une smart city qui serait en quelque sorte bricolée de la base. Et le tout est régi par une sorte de plateforme, donc, qui est la plateforme UpCity, où selon l'investissement dans la transformation de la ville, on gagne des points. Et ces points permettent de s'inscrire dans une économie un peu parallèle à l'économie monnaie, où donc on s'échange ces points qu'on a gagnés en investissant dans un potager urbain ou en bien collectant ces déchets contre des services. Et donc un réseau d'économie, en quelque sorte, qui procède par l'éducation des gens à prendre soin de la ville.
Et vous avez une idée du nombre de personnes qui fréquentent ces ateliers éparpillés un peu partout?
Alors on n'en a que deux, parce qu'on arrive à répliquer très difficilement puisqu'on procède sur ressources propres. Donc il y a deux lieux.
Dans Lomé?
Dans Lomé, oui. Deux lieux, mais qui ont formé déjà des centaines et des centaines de jeunes. Je pense que 3 personnes sur 4 sur la scène tech togolaise est passée par ce dispositif. Et quelques projets que nous transformons en start-up, parce que la culture start-up est très stratégique dans le dispositif, parce que nous considérons que la start-up est aujourd'hui ce qui peut implémenter une solution plus rapidement qu'une décision d'État et ce qui change d'échelle rapidement. Et Uber, Airbnb, Deliveroo transforment la ville plus rapidement que pourrait le faire une décision officielle ou un projet de planification sur papier. Donc il s'agit de lancer des Uber, des Airbnb, mais qui sont, fonctionnent avec des soucis de redistributivité et d'inclusivité, qui sont co-gérés et donc qui tous, en s'additionnant, permettent d'adresser toutes les thématiques urbaines de la gestion des déchets jusqu'à la gouvernance de la ville.
Jérôme, que vous inspire ce genre d'initiative? Ça rejoint un petit peu la théorie du colibri que vous évoquiez tout à l'heure avec Madagascar?
Oui, et moi je signe tout de suite parce que pour moi la Smart African City, on va utiliser ce bilinguisme, elle existe depuis très longtemps, elle est là, tout est là. Et sincèrement, on a toujours l'impression, on oppose un peu l'intelligence collective à la puissance de calcul. Et je dirais que globalement, d'où je viens en Suisse, on est sur la puissance de calcul. Et quand je vais, j'ai la chance d'aller une fois par mois dans une ville africaine au moins, tout est là. Tout est là, sauf que c'est de l'intelligence commune. Je donne un petit exemple. J'ai été surpris. Un jour, j'arrive à Douala et je m'assieds à la terrasse d'un café avec mes amis camerounais. Et 10 minutes après, j'avais Internet sur mon portable. Voilà. Donc j'avais eu ma carte SIM et quelqu'un m'avait fait, je n'ai pas encore compris comment c'était possible, mais il a fallu. Donc c'est une efficacité incroyable. Il n'y a pas un endroit au monde où vous pouvez avoir en 10 minutes tout ce qu'il faut, Internet et tout. Et donc on a compris que la technologie, et on voit au Bénin avec WhatsApp pour les mototaxis, il y a plein d'exemples comme ça, et on a compris très rapidement que ces technologies, c'est low-tech, parce qu'on utilise encore des vieux Nokia, on n'a pas besoin d'avoir l'iPhone 10 pour faire ce genre de choses. Et ça, c'est très important. C'est que nous, on attend que Apple nous dise, nous en Suisse, hein, d'où je viens, on attend que Apple nous dise comment faire pour payer, alors que vous allez dans un maquis à Cotonou et vous pouvez payer par simple SMS. Donc cette Smart City, elle est déjà là depuis longtemps. Bien sûr. Et donc, quand j'entends ce genre de lab et de propos, c'est effectivement ça qu'il faut faire. Bien sûr. Alors, ça ne suffira pas, on est d'accord. Hein. On ne va pas régler tous les problèmes avec des SMS et des vieux Nokia, on est d'accord. Mais on a une possibilité, une créativité, une innovation qui est juste incommensurable.
Alors, s'il est une capitale en Afrique qui surprend par son organisation, sa propreté et la vitesse avec laquelle elle s'est transformée depuis le génocide de 1994, c'est Kigali, au Rwanda. Damien, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes d'origine béninoise et vous habitez au Rwanda depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé à Kigali?
D'abord, ma première visite au Rwanda en 2011. M'avait quand même surpris parce que j'avais beaucoup d'idées de l'histoire que vous venez de citer, qu'on a tous en tête. Mais quand j'ai vu la discipline dans la ville, l'organisation structurelle de la ville, la propriété surtout, j'ai été séduit par cela. Et depuis 4 ans où je vis ici, où j'ai en réalité instauré un centre de formation qui est comme un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées que j'ai pu implanter ici au Rwanda, en même temps à l'île Maurice et au Ghana, où j'avais vécu avant. Mais depuis 4 ans où je suis basé ici, je suis quand même en train de voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui montrent que les gens ont vraiment envie de rendre leur ville assez attrayante et puis tout le monde y participe. Et
est-ce que vous pouvez nous raconter, Damien, est-ce que vous pouvez nous raconter par exemple ce qu'est l'Umuganda?
L'Umuganda, par exemple, c'est un truc historique qui a été instauré ici depuis que je suis là, j'y participe, c'est-à-dire tous les fins de mois, les derniers samedis du mois, de tous les mois, les gens, les citoyens doivent venir tous dans toutes les villes comme villages, se retrouver ensemble et nettoyer systématiquement la ville. Et là, dans les villes comme dans les campagnes, les autorités comme les citoyens lambda, comme les chefs d'entreprise, tout le monde y participe pour faire le nettoyage systématique. Du matin, par exemple, de 7h30, ça prend au moins 3 heures de temps de nettoyage de la ville et des campagnes. Mais au même moment, les gens se retrouvent juste après le Muganda, parce que ce pays a aussi une chance unique d'avoir une langue unique pour tous, et ils font ce que je peux appeler moralisation de la vie publique. Donc, on leur donne des éducations sur le comportement à tenir, comment la ville doit se présenter, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est là où se passent tous les débats, où chacun essaie d'apporter son opinion sur la table et puis discute. Ils ont chaque région à son Mudugudu. Le Mudugudu, c'est comme le chef du village, et c'est ce chef de village qui coordonne et organise dans toute sa région les différentes personnes qui doivent participer à l'activité, que ce soit les bonnes dames, que ce soit les adolescents ou même les vieux, toutes les catégories de personnes qui sortent pour balayer, nettoyer, arranger même des routes et toutes sortes de choses qui manquent dans la cité. Et c'est une habitude que depuis que je suis là, se passe pratiquement tous les derniers samedis du mois et qui est presque obligatoire pour tout le monde.
Alors justement, Damien, est-ce que les Rwandais se soucient vraiment de l'environnement, ou est-ce que le régime ne leur laisse pas le choix?
Je crois que, de toutes les façons, il y a la volonté politique, comme j'avais vécu au Ghana, comme je vous l'avais dit. Il y a la volonté politique qui fait que vous sentez l'implication non seulement de Semoudou Goudou, mais aussi de la police de la ville ou des régions qui font en sorte que les gens qui doivent bouger avec les véhicules qui pourront s'entêter, on vous dit, mais non, vous savez, c'est la règle. Il y a Muganda aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler. Vous devez être en train de nettoyer quelque part, ainsi de suite. Donc, il y a cet aspect, mais aussi l'aspect culturel que je crois que doit avoir des redevances vis-à-vis de la culture. Parce que déjà, au niveau de la maison, ça se constate visiblement quand tu as une domestique qui a ce sens de propriété qui te fascine, où tu l'envoies au marché et elle te dit, mais je dois m'apprêter, me nettoyer. Même si elle n'a que deux ou trois habits, tu sens qu'elle doit s'habiller, se brosser, se nettoyer, parce qu'il y a cette culture de, il faut bien se présenter vers le dehors ou vers l'étranger, que je pense qu'ils ont peut-être quelque chose à en avoir avec peut-être la culture ou la royauté peut-être, qui a gardé ses formes, oui.
Merci beaucoup Damien pour votre témoignage. Quel pouvoir ont les élus locaux sur les quartiers précaires? Au sommet Africité de Marrakech, Charlie Dupiot a rencontré Armand Bewindé, le maire de Ouagadougou depuis 2016. Dans la capitale burkinabé, les quartiers précaires sont longtemps restés invisibles, loin des projets d'urbanisme.
Ouagadougou a connu une grande expansion ces dernières années. Donc autour de la capitale se sont créés des quartiers spontanés que nous appelons les quartiers non lotis, parce qu'il n'y a pas eu de lotissement formel avec des titres de propriété. Ce que vous appelez bidonville, nous les appelons les quartiers non lotis.
Il y a des chiffres assez impressionnants sur cet étalement urbain. En 30 ans, la superficie de la capitale a été multipliée par 4.
Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 3 millions d'habitants. En 15 ans, la population a doublé. Cet étalement est dû au fait que, comme partout en Afrique, c'est la capitale qui est attractive et c'est un pôle économique très dense. Il n'y avait pas eu de planification, donc l'urbanisation a vu le jour il y a une quinzaine d'années et nous sommes en train de mettre en place les outils de planification urbaine au niveau de la ville de Ouagadougou.
Alors justement, qu'est-ce que vous mettez en place sur cette question?
Dans cette volonté de structuration, nous avons bénéficié de l'appui de ONU Habitat et il y a eu 3 quartiers dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou qui est un arrondissement à 80% bidonville selon votre vocable. Et il y a le quartier Bissingui, le quartier Watinoma, nord et sud, qui sont des zones d'expérimentation d'un projet de développement urbain. Ce projet a été lancé en 2008, donc il y a eu la mise en place déjà d'un organe de gouvernance dans les quartiers, c'est-à-dire les comités de quartier. C'est un projet participatif. On a construit également, grâce au projet, au sein de ces quartiers, des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires également. Et on a aménagé, et grâce à l'utilisation de la main-d'œuvre locale, des caniveaux le long des voies qui sont structurantes pour éviter les inondations. C'est des quartiers où il y a souvent des inondations. Vous savez que ces quartiers spontanés sont faits sur des sites où il n'y a aucun assainissement. On a construit des toilettes publiques.
Ce programme ciblait 3 quartiers non lotis. Combien de quartiers non lotis compte la capitale?
Tout le pourtour de la capitale. Donc vous avez à peu près 7 arrondissements où il y a des habitations précaires et où des bidonvilles se sont développées.
Alors là, du coup, l'ONU Habitat a mené ce programme-là dans 3 quartiers de la ville en 2008. Mais sans ONU Habitat, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour ces bidonvilles et pour les autres, en fait, puisqu'il y en a beaucoup d'autres dans la capitale?
Il faut dire qu'au Burkina, cela est particulier. Ouagadougou, déjà, ce n'est pas de la compétence même de la ville, c'est de la compétence du ministère chargé de l'urbanisme, de le faire.
Ah, c'est tous les enjeux de la décentralisation.
Exactement. On donne des missions aux villes sans pouvoir les transférer les moyens parce que nous n'avons pas les moyens de planification. On ne peut pas faire grand-chose tant que le ministère ne donne pas le plan de structuration du quartier. On ne peut pas aller plus loin.
En fait, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que vous attendez en fait au niveau de l'État des décisions.
Exactement. C'est le ministère de l'Urbanisme qui a la vision de la planification, qui a la responsabilité. Et nous, nous sommes que des acteurs qui accompagnons. On n'a pas du tout même les moyens qu'il faut.
Jérôme Chenal, la Banque mondiale a publié en 2017 un rapport qui comparait les processus d'urbanisation au Moyen-Orient et en Asie et en Afrique. Et les experts concluaient, l'Afrique s'urbanise en restant pauvre. Pourquoi est-ce qu'en Afrique subsaharienne, l'urbanisation ne fait pas augmenter la richesse des habitants ?
Alors c'est une grande question et je pense que c'est assez complexe. Alors dans la doxa habituelle, l'urbanisation et l'industrialisation sont deux choses qui vont de pair. Donc il y a finalement production capitaliste de valeurs qu'on ne trouve pas du tout. Ça veut dire simplement qu'on est sur d'autres réalités, d'autres types de réalités. Et forcément, si on regarde par rapport aux villes qui fonctionnent le mieux, et puis qu'on commence à faire des statistiques mondiales, on va voir que les villes africaines ne fonctionnent pas du tout. Mais ce n'est pas qu'elles ne fonctionnent pas du tout, c'est que juste ce qu'il y a là derrière, ce qui nous donne la théorie urbaine, je dirais, aux États-Unis et en Europe, n'est pas valable en Afrique. Et donc, il faut repartir de ce qui est valable. Et c'est clair que si on a une forme d'enrichissement et d'industrialisation avec les villes, comme on a vu avec la révolution industrielle un peu partout dans le monde, ben, ça n'a pas cours en Afrique. Dans toutes les villes africaines, il y a quelques exceptions, bien sûr, ça n'a pas cours. Mais c'est pas que c'est moins bien ou qu'on n'y arrive pas. C'est juste que ce ne sont pas les mêmes règles de base. Et si vous jouez avec des jeux différents, mais que vous n'utilisez pas les bonnes règles, forcément, on est toujours en manque quelque part.
Alors, on va maintenant faire la connaissance de Félix Mensah Niananga. C'est le maire de la ville de Tema, un port industriel près d'Accra qui concentre 70% des échanges commerciaux du Ghana et compte près de 300 000 habitants. 60% des habitants de la région d'Accra vivent dans des bidonvilles. Et des bidonvilles, ce maire a une vision un peu particulière.
Quand je suis devenu maire en 2017, je suis arrivé avec un programme. Un programme pour la restauration de Tema. Je ne voulais pas d'une ville avec des bidonvilles, hors de question. Dans les années 50, Tema était la plus belle ville du Ghana. Au début de mon mandat, j'avais envie de dire aux habitants des bidonvilles, « D'où venez-vous ? Nous ne voulons pas de vous. Rentrez chez vous. » C'était ça mon approche. En général, ils vivent dans des cahutes en bois. Ce n'est pas beau à voir. Et moi, je rêvais d'une ville belle, comme avant.
Mais vous dites « eux » et « nous ».
Quand je dis « eux », je me réfère au fait qu'ils ont migré. Quand je dis « nous », je désigne les habitants, disons, originaires de la ville. Pour moi, les habitants des bidonvilles étaient tous des migrants arrivés récemment en ville. Et mon idée, c'était qu'ils devaient rentrer chez eux, dans leur région d'origine. À l'époque, je pensais à les déplacer de force. Mais maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas utiliser la force. Et aujourd'hui, j'ai changé d'avis parce que je travaille avec des ONG comme Slum Dwellers International et d'autres. J'ai compris, que je le veuille ou non, qu'ils font partie de notre société, bien qu'il n'y ait pas de bâtiments permanents dans lesquels habiter. Et puis, il y a le soutien de notre président qui a accordé un fonds de développement destiné aux zones de bidonville, un fonds de 15 millions de dollars, soit 13 millions d'euros. Hélas, le problème des bidonvilles va perdurer. Nous n'avons pas d'autre choix que de vivre avec eux, avec ceux qui vivent dans ces quartiers. Mais il va falloir les former, les éduquer et contribuer à en faire de meilleures personnes, plus à même de vivre en société.
Saname Kofi Agbodjinou, vous avez créé la plateforme l'Africaine d'architecture parce que votre idée, c'est qu'on peut puiser dans les traditions africaines pour inventer une nouvelle architecture ?
Oui, oui, je pense qu'il y a énormément de leçons dont on peut faire en quelque sorte l'archéologie, pas seulement sur la performance et la capacité à engencer du matériau, mais aussi dans toute la symbolique et la prise en charge du monde qui transparaît dans ces architectures anciennes qu'on peut mobiliser aujourd'hui et qui peuvent adresser valablement les challenges qui sont les challenges contemporains de l'Afrique.
Pour vous, on n'est pas obligé, enfin on ne devrait pas d'ailleurs en Afrique copier les modèles d'immeubles occidentaux.
C'est pas la question ne se pose pas au niveau de seulement de l'immeuble, la question se pose globalement
au niveau
en fait.
De l'agencement
c'est global. Si je veux aller au bout de la logique, je pourrais parler de l'installation elle-même. On peut considérer qu'il y a deux approches de l'installation, des installations humaines. Il y a l'approche civilisation qui est de se de s'inscrire dans le milieu un peu en autiste, en refusant de tisser avec le milieu, en considérant qu'il faut soumettre le milieu, et donc la ville devient un peu vitrifiée et tire en elle-même ses propres solutions, sa propre loi, mais en aucun cas n'interagit avec le milieu et se protège du milieu. C'est l'approche qui a donné naissance à la civilisation, c'est cette approche-là qui est en crise aujourd'hui, avec cette vision extrême qui est résumée par ce qu'on appelle l'anthropocène. À côté de cette approche-là, il y a un autre type d'approche qu'on peut appeler l'approche système du monde. Et l'approche système du monde, ça a toujours été l'approche des sociétés africaines. On s'installe en tissant avec l'environnement et on prend ses lois du domaine dans lequel on s'inscrit, de sorte à ce que tout ce qu'on fait interagisse efficacement avec le milieu, et en aucun moment on ne rentre en conflit avec le milieu, on régit ce qu'on peut ponctionner ou pas dans le milieu. Et donc ces constructions-là se développent plus harmonieusement parce qu'elles se sont réellement inscrites. Donc on peut aller jusqu'à mobiliser les sagesses qui ont été mises en place par ces sociétés-là pour arriver à faire ça, mais on peut aller aussi directement à la science du matériau, on peut aller aussi aux structures sociales, comment les structures sociales aident le bâtiment à être plus efficace. Et donc il y a vraiment un gros chantier à faire de retour aux architectures anciennes pour voir quelles sont les leçons qu'on peut mobiliser. Et de mon point de vue, le temps un peu critique dans lequel on est aujourd'hui, qui non seulement souligne la crise de l'autre approche en Occident, mais aussi valorise les approches un peu collectivistes, est donc propice à ce que ce travail-là puisse être revalorisé et permettre de faire des villes africaines de demain qui soient très efficaces.
À propos de matériaux, il faut revenir à des matériaux typiquement africains qui sont produits sur place, qui coûtent moins cher.
Il faut pas revenir, mais il faudrait idéalement des matériaux africains. Ça m'a l'air d'être une évidence. Il faudrait des matériaux qui coûtent pas cher, c'est aussi une évidence. Donc, est-ce que les matériaux qui sont utilisés dans nos architectures anciennes font encore sens aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les faire évoluer légèrement? Ça c'est aux écoles d'architecture, aux centres de recherche sur les matériaux de trancher cette question-là. Le problème, c'est que les quelques écoles qu'on a aujourd'hui et les rares centres de recherche qu'on a fonctionnent eux aussi en autiste. Les écoles ne sont pas inscrites dans leur territoire, elles ne se font pas la main sur la transformation des communautés environnantes et produisent plutôt des sortes de technocrates qui considèrent qu'un architecte n'a pas à mettre les pieds dans la boue, n'a pas à poser une brique sur une autre brique et doit rester dans un bureau à regarder un peu son public de haut.
Dernière question, Jérôme Chenal, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur ce que sera la ville africaine de demain ?
Moi, je suis plutôt pragmatique. Non, mais je pense qu'il y a de quoi être optimiste et certains matins, en se réveillant, en regardant, en écoutant RFI, on se dit il y a de quoi être pessimiste parfois. Mais je suis un pragmatique et je crois beaucoup, et on l'a dit tout à l'heure, à cette intelligence commune. Et on voit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui sont innovants. Et c'est ça qui me fait être positif. Après, je ne suis pas complètement naïf. On est inscrit dans un système mondial, on est inscrit dans des enjeux qui dépassent la plupart de ses habitants, on est inscrit dans des grandes sociétés qui font du lobbying. Donc il y a ce côté-là, donc c'est pour ça que je me définis plutôt comme un pragmatique.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités, Jérôme Chenal et Senami Kofi Agbodjinou. Demain, 7 milliards de voisins se posera une question. Employés de maisons et domestiques, vivons-nous dans une société de services ou de servilité? On attend vos avis, vos témoignages sur la page Facebook de l'émission. Une émission d'aujourd'hui à réécouter en podcast sur le site rfi.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Merci à toute l'équipe. Sigrid, Delphine, Charlie Dupiot et Romain Aubrac qui a réalisé l'émission.